Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
Donc, moi, c'est Caroline Ferrand. Je suis psychopraticienne. Donc je propose de la psychothérapie humaniste et analytique sur Montpellier, où j'accueille autant les adultes, les enfants, les adolescents, et j'accompagne aussi les couples et les familles. Et je travaille aussi donc dans un centre qui s'appelle l'Agapé, qui est un appartement dédié au bien-être des femmes. Voilà un peu pour la présentation.
Alors, de ce que j'ai compris, Caroline, donc tu fais du présentiel, mais est-ce que tu fais du en ligne aussi?
Oui, tout à fait. Ça dépend des moments, ça peut être à peu près la moitié de mes consultations qui peuvent être par visio, parfois par téléphone, mais quand même on préfère avoir l'image, c'est quand même plus agréable.
J'entends bien. Merci Caroline. Bah, on va commencer ce live donc sur la consultation chez le psy. Alors justement Caroline, comment se passe la première consultation chez le psy ?
Alors forcément, ça peut dépendre un peu de chaque psy. Je vais surtout parler, je pense, de ma manière d'accueillir. C'est vrai que souvent, je dirais que quand même la plupart des thérapeutes, pour en avoir parlé avec mes collègues, on aime bien soit envoyer un petit SMS, soit appeler la personne quand elle prend rendez-vous, avoir un premier contact, voilà, savoir un petit peu ce qui l'amène. Et ensuite, lors du premier rendez-vous, c'est vrai que pour moi, c'est important... Je fais à la fois un peu une petite météo des émotions, un peu savoir voilà comment, avec quelle émotion déjà la personne arrive aujourd'hui. Est-ce que là on va dire ça va, est-ce qu'il y a du stress, voilà un peu voir ce qui se passe. Et ensuite je lui demande de m'expliquer ce qui l'amène, ce qui l'a amené à prendre rendez-vous. Et ensuite on est dans un échange. C'est vrai que la première séance, certaines personnes en sont très contentes, certaines personnes en ressortent parfois frustrées parce que c'est vrai qu'elles disent des choses qu'elles ont l'impression de déjà connaître, mais nous on en a besoin en fait. Donc on va des fois un peu poser des questions plus générales, on aime bien savoir dans quelle situation est la personne, autant sa situation familiale, amicale, conjugale, voilà, un peu savoir qu'est-ce qui gravite autour d'elle. Les problématiques qu'elle amène, est-ce que c'est une problématique qui est toute récente, est-ce que c'est quelque chose qui date depuis plus longtemps, enfin voilà, on observe un petit peu. C'est vraiment le moyen de faire connaissance, et je dirais que ce qui est important aussi de pas hésiter en fait à poser des questions au psy qu'on va voir. Vraiment on est toujours ok pour répondre, donc de venir nous demander mais un peu comment vous pouvez m'accompagner, et aussi de définir les attentes. Moi, des fois, alors je le demande toujours, je dis en fait, qu'est-ce que vous attendez de moi? Comment je peux vous aider? Mais voilà, de pas hésiter à le dire, parce qu'au moins, ça permet de voir si déjà on est avec la bonne personne, et parfois de réorienter si besoin. Ça m'est arrivé avec des personnes qui me disent, moi, je voudrais des techniques très spécifiques pour me relaxer, etc. Et souvent, je vais plutôt réorienter vers une collègue sophrologue, parce qu'elles veulent des techniques très précises, donc ça paraît mieux de ce côté-là. Donc voilà, de pas hésiter à partager ses attentes. On est toujours prête à les entendre et à échanger avec vous sur tout ça.
D'accord. Et puis ça évite d'être déçu aussi, j'imagine, et de faire plusieurs séances et finalement n'aboutit pas.
Eh oui, c'est ça.
D'accord. Merci Caroline. Alors après justement cette première séance, comment passe un rendez-vous chez un psy?
Alors je dirais que souvent moi ce que je demande, c'est un peu la fréquence globale que la personne a envie d'avoir, parce que souvent, ça va pas être exactement le même travail, quelqu'un que je vais voir toutes les semaines ou tous les 15 jours et quelqu'un que je vais voir une fois par mois. Donc, de voir un petit peu qu'est-ce que la personne a en tête, ce qui veut pas dire qu'on n'a pas un engagement, on n'est pas à la salle de sport, c'est pas... Mais c'est un peu se dire quelle direction on donne à nos suivis. Parce que quelqu'un, et c'est souvent ce que je dis, quand on a vraiment envie de faire une psychothérapie, de vraiment creuser, c'est bien de le faire toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Après, le choix entre toutes les semaines et toutes les deux semaines, ça dépend des personnes. Ça dépend aussi des capacités financières. C'est important. Mais aussi, il y a certaines personnes, elles ont besoin de digérer ce qui s'est passé dans la séance avant de passer à la suivante. Et là, deux semaines, c'est très bien. Et d'autres personnes, elles ont vraiment envie que ça continue d'être un peu dans cette action. Enfin, voilà, quelque chose qui bouge un peu plus. Et donc, toutes les semaines, ça leur correspond très bien. Ça dépend, mais je dirais qu'une semaine ou tous les 15 jours, c'est assez similaires comme type de suivi. Et après, quand on passe à toutes les 3 semaines, tous les mois, mois et demi, là, pour moi, on est plus sur de l'accompagnement psychologique. Et ça sert pas à rien, mais ça va être avec certaines personnes qui veulent plus parler de problématiques spécifiques. Par exemple, alors il s'est passé par exemple ça à mon travail aujourd'hui, on le décortique ensemble. Et voilà, mais on creuse moins, on reste un peu sur la surface de ce qui se passe en ce moment. Ça permet de venir déposer. Un peu, c'est, j'ai déposé mes bagages et je repars plus léger. Dans un mois, je reposerai les bagages un peu en trop. Mais on n'est pas, voilà, dans un travail de fond. Donc, tout dépend de ce qu'on recherche à ce moment-là.
Intéressant. Alors, il y avait une question aussi qui était très privée, Caroline. C'était comment savoir si mon psy me convient? C'est une question très importante.
Alors, je dirais que, vraiment, rencontrer un psy, c'est une rencontre, justement. C'est une rencontre humaine. Donc, c'est important de voir le feeling. Est-ce que je me sens à l'aise avec la personne? Est-ce que des fois, c'est des choses où ça peut être après la séance, un peu comment on se sent après la première séance? Est-ce que on sent que, bon, c'était pas facile, mais que quand même, on s'est senti accueilli, on s'est senti écouté, ça nous a fait du bien, même si peut-être que ça a fait bouger des choses pas très agréables. Ou est-ce qu'au contraire, on ressort et qu'on se dit, non, mais là, je me sentais pas bien, j'étais pas moi, j'étais... Voilà. Alors après, c'est quand même bien, je dirais, de... Enfin, alors pas tester, parce que on n'est pas des produits à tester, mais en une séance... Alors parfois, il y a vraiment, on va se dire, ah oui, non, là, ça passe pas, et ça, ça peut arriver. Mais de se laisser le temps, pardon, je dirais que 2-3 séances, ça permet quand même de voir si on aime la direction que nous propose notre psy. En moins, on sait pas trop, parce que parfois, ça fait bouger des choses en nous, c'est pas très agréable, on sait pas trop est-ce que c'est la relation ou est-ce que c'est ce dont on parle. Donc, j'ai 2-3 séances, ça permet de voir. Et au bout de la deuxième ou troisième, vraiment de venir poser les choses avec le thérapeute. Si on se sent pas bien, de dire, bah, écoutez, là, c'est la troisième fois que je viens, je suis pas très à l'aise, je comprends pas ce qui se passe, et on en parle. Soit, excusez-moi, soit effectivement, la démarche peut-être ne correspond pas, peut-être que c'est pas la bonne personne en face, il peut y avoir plusieurs raisons, et vraiment ne pas hésiter à s'appuyer sur le thérapeute pour mieux comprendre ce qui se passe à cet endroit-là. Donc, je dirais que c'est en premier lieu ce feeling de la rencontre et vraiment de parler de ses attentes, comme on l'a dit au début, parce que pour le coup, le thérapeute sait son métier, il sait ses spécificités, il sait comment il accompagne, donc forcément, il peut vous guider en disant « Ah sur ça, moi je vais pouvoir vous aiguiller de cette manière, si ça vous correspond pas, j'ai tel collègue, elle va vous accompagner plus comme ça, peut-être ça ira mieux ». Donc voilà, de pas hésiter sur ça.
Merci Caroline pour cette explication. Alors, on avait encore une autre question très, très importante finalement aujourd'hui. Les questions sont quand même beaucoup, beaucoup de valeur. Quelle est la différence entre les différents psys?
Alors, quand j'ai vu qu'il y avait cette question, c'est vrai que c'est une question où on pourrait prendre déjà 30 minutes pour, pour y répondre. La manière la plus brève, je dirais que c'est déjà... S'il s'agit d'avoir un diagnostic ou un traitement médicamenteux, il s'agit d'un psychiatre, parce que les psychiatres sont médecins. Donc déjà, si dans la question, on se dit « Ah là, je me questionne sur... » ça peut arriver, je ne sais pas, des différents troubles, des troubles bipolaires, du TDAH, de l'autisme, se rapprocher de son médecin généraliste, voire contacter directement un psychiatre en fonction de ce qui est possible. Mais voilà, dès qu'il y a traitement, ou diagnostic, c'est le psychiatre. Ensuite, dès le moment où on veut un... Pardon, aujourd'hui je perds ma voix. Dès qu'on veut un accompagnement psychologique, une psychothérapie, donc là souvent, donc effectivement, on a quand même une pluralité de disciplines. On peut avoir les psychologues et les psychopraticiens comme moi. Donc ça, c'est plus des différences, on va dire, de formation. Le psychologue a une formation... qui est universitaire, le psychopraticien a plutôt une formation qui passe par des écoles privées. Après, il peut y avoir des spécificités pour chacun, mais voilà, on va dire on est plus sur une différence administrative et pas forcément sur une différence de qualité d'accompagnement. Le plus important, c'est à nouveau cette rencontre et voir justement comment pratique la personne. Parce que c'est pareil, dans les psys, alors il y a plein de choses. Et on peut avoir un psychologue qui pratique d'une certaine manière, un psychopraticien qui pratique d'une autre, etc. Donc voir quelle est l'approche qui me fait du bien, dans laquelle je me reconnais. Il y a des personnes, de passer par une approche psychanalytique, ça les aide énormément. Elles aiment beaucoup être accompagnées de cette manière. Et d'autres, pas du tout. Elles vont avoir besoin d'une approche très comportementale. Donc voilà, à nouveau, même si, en fait, c'est pas grave que les personnes n'aient pas les bons mots, en fait. On s'en fiche de savoir, ça s'appelle des TCC, ça s'appelle ceci. Non, c'est un peu de dire, bah, moi, j'aime bien beaucoup parler. Et quand je m'entends parler, c'est vrai que ça m'aide à réfléchir. Bah moi, j'aime que ça soit beaucoup dans l'action, j'aime avoir des exercices à la maison. Et bien là, peut-être qu'on va se dire soit un coaching, soit une TCC, soit. Enfin, voilà, déjà se dire qu'est-ce que moi j'aime quand on m'accompagne, qu'est-ce qui m'aide à me sortir de ce que je veux. Et à nouveau, d'en parler avec le thérapeute qui pourra, si besoin, réorienter, parce que bah, nous, forcément, on a d'autres collègues et on a d'autres connaissances du fait d'être dans le milieu. Donc, on peut parfois vous aider à mettre les mots dessus. Donc, vraiment, de pas hésiter à en parler, et ça aide à trouver le bon psy d'une certaine manière.
Merci Caroline pour cet éclaircissement. Quand consulter un psy ?
Alors c'est assez intéressant, parce que justement j'en parlais avec une collègue, où je trouve qu'en ce moment, et je trouve que c'est une super chose, je pense que c'est un peu le Covid qui a fait bouger les choses et les différentes situations. Et ben, il y a des personnes qui viennent sans avoir de problème. C'est-à-dire de venir et de dire, en fait, je veux travailler sur moi. Il y a des petits couacs dans mes relations. Il y a des petits endroits où je me comprends pas bien et j'ai envie de me comprendre. Et ça, je dirais, c'est une des possibilités de consulter. Vraiment, de se dire, j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie de mieux me comprendre, et c'est totalement possible. J'avais une patiente, d'ailleurs, ça m'avait touchée, parce qu'elle me disait, mais est-ce que je suis légitime là de venir, je vous parle de choses, c'est tout bête. Je disais, mais bien sûr. Enfin, déjà, si vous, ça vous fait du bien, c'est tout ce qui compte. C'est important. Hein. Est-ce que soi-même, ça nous fait du bien? Et voilà, une des possibilités, c'est j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie de me connaître, j'ai envie d'avoir un peu de tirer les ficelles. Des fois, on a l'impression que dans notre tête, c'est tout emmêlé. Donc, voilà, on veut un peu mettre à plat, faire du tri. Donc, ça peut vraiment être une très bonne raison de consulter. Parfois aussi, on a besoin de consulter parce qu'on traverse des périodes très difficiles de nos vies. Je dirais que les périodes de transition, c'est très intéressant de se faire accompagner. Et la transition, c'est large. Ça peut être une séparation. Ça peut être la perte d'une personne. Ça peut être aussi, par exemple, un déménagement. Parce que ça peut être aussi la perte d'un emploi ou une promotion. Ça peut être étonnant, mais il y a des personnes, en fait, en changeant de statut social, il peut se passer plein de choses. Donc, ces moments de transition, ça peut être des moments assez intéressants pour se faire accompagner, pour justement mettre à plat. Se dire, OK, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Comment je peux refaire le point sur mes besoins? Parce que quand il y a transition, souvent, il y a évolution des besoins. Et parfois, on ne se rend pas trop compte de qu'est-ce qui n'est plus valable et qu'est-ce qui est nouveau qui arrive. Donc, c'est vraiment des très bons moments aussi pour consulter. Et après, bien sûr, il y a toute la sphère psychopathologique, où on peut avoir différents troubles. Il y a bien sûr aussi tout ce qui est troubles de la dépression. Enfin, voilà. Mais ça, je dirais que d'une certaine manière, les gens le savent un peu déjà, que quand on va mal, on va consulter. Mais on n'est pas obligé d'attendre d'être au plus mal pour consulter. De même pour les thérapies de couple, moi c'est quelque chose que j'essaie vraiment de mettre en avant, ne pas attendre de faire la thérapie de couple quand on est en train de se dire on se sépare. On peut le faire à cet endroit-là, c'est intéressant, ça permet soit parfois de relancer des choses, soit de se séparer, on va dire, d'une manière plus calme, plus posée, donc ça fait du bien, mais parfois à nouveau, préparer une transition. J'ai eu des femmes qui sont venues me consulter parce qu'elles attendaient un enfant, elles se sont préparées à cette parentalité et c'était génial de les accompagner. C'était vraiment être finalement un peu aussi dans la prévention. Et ça, c'est important, vraiment ne pas forcément attendre que tout aille mal et surtout se dire, OK, est-ce que là, j'ai besoin d'avoir un regard neutre? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un espace où je serai accueillie, où je pourrais parler vraiment comme bon me semble, et aussi parfois sans faire attention? C'est le bon endroit pour... Justement, quand on a des difficultés relationnelles, bah là, allez, on expose tout, on dit tout ce qui se passe par la tête, on n'est pas jugé sur ses émotions. et on les retravaille ensemble, on les clarifie ensemble, et comme ça, c'est beaucoup plus simple pour expliquer avec l'autre, on est moins dans l'explosion, tout ça.
Merci Caroline, il y avait une dernière question qui avait fait pas mal débat, parce que j'avais fait un reel là-dessus, c'était quel est le prix moyen d'une consultation ?
Alors ça dépend des régions, donc ça peut vraiment changer. Après, je dirais que en ce moment, on va dire, alors je vais pas parler de la région parisienne parce que je n'y suis pas, donc je sais que les prix peuvent être plus élevés là-bas, mais c'est autour de 60 euros. Il y a des prix un peu en dessous, il y a des prix un peu au-dessus, mais je dirais que la moyenne, en tout cas moi que j'observe à Montpellier, que j'ai observé à Toulouse, que j'ai pu observer à Lyon, enfin voilà, donc quand même dans des métropoles, on était autour de 60 euros. Là, je vois qu'il y a une personne qui demande à Paris. À Paris, ça peut dépendre. J'ai entendu des personnes avec des tarifs à 120 euros les 30 minutes. Il y a des tarifs plus bas. Enfin, bon, ça dépend, mais je dirais que 60 euros, c'est une bonne moyenne. Il y a des professionnels qui sont plutôt à 50. Mais voilà, c'est autour des 60 globalement.
Alors justement, il y avait une question qui était assez revenue et c'était comment on fait quand on n'a pas la situation financière ? Est-ce que du coup, on doit finalement faire une séance par mois ? Est-ce que vraiment ça vaut le coup pour le coup si on a vraiment une problématique à travailler ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que les psys, des fois, s'adaptent aussi finalement quand ils ont la perte, pas les moyens financiers ?
Alors, moi par exemple, je sais que pour les étudiants, pour les personnes en précarité d'emploi ou même pour les personnes qui... Enfin, je demande jamais de justificatif, hein, moi vraiment je fais confiance. Si la personne me dit en fait moi financièrement c'est compliqué, je propose les tarifs à 45 euros. Donc c'est à voir. Après, on peut effectivement faire moins de séances. Je dirais que c'est pas... Tout dépend du travail qu'on veut faire, mais parfois, au moins d'avoir un point de rendez-vous, une espèce de truc qu'on se dit, là, je sais que j'ai un espace à moi. Déjà, pour certaines personnes, ça peut faire beaucoup. Et vraiment, de pas hésiter à parler de la question financière avec une personne que j'accompagne depuis un moment maintenant. Par exemple, je sais que c'est une personne qui est au RSA, qui est dans le familial, voilà, qui a des difficultés. Par contre, on s'est mis d'accord pour un tarif plus bas, et en fait elle me fait un virement par mois, ce qui fait que pour elle c'est un peu plus facile de gérer au niveau des dépenses, parce qu'au moins elle sait qu'il y a une seule somme qui sort, et voilà. Donc ça, c'est chaque psy a sa manière de faire, mais surtout parlez-en, vraiment dire voilà, là moi financièrement j'ai vraiment envie de m'investir dans le suivi mais je sais pas comment faire, et le dire. Si pour vous payer plus de 45 euros par mois ou plus de 60 ce n'est pas possible et que vous avez quand même envie d'être accompagné, dites-le. Après, c'est important de se rendre compte qu'effectivement, avec un rendez-vous par mois, les choses ne vont pas avancer de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, mais on ne peut pas s'attendre une fois par mois à la même chose que toutes les semaines. C'est normal. Ça prend un temps différent. Aussi, de penser qu'il y a de plus en plus de mutuelles qui prennent en charge. Moi, j'ai une patiente, elle a eu 4 séances à 60 euros remboursées par sa mutuelle. Donc, de demander des factures, d'envoyer à la mutuelle. On voit, avec le Covid, en plus, les mutuelles ont mis en place, je crois que c'était des packs de 3 ou 4 séances, ça dépendait. Oui. Donc, de penser à solliciter ces mutuelles, parfois, ça peut être quelques euros remboursés, mais voilà, de pas hésiter. Certains psys, dans des conditions très spécifiques, sont remboursés par la Sécu, mais c'est un parcours encore différent et c'est seulement sous attestation médicale, etc. Donc, c'est un autre parcours. Mais voilà, de penser aux mutuelles, de penser à en parler. Et je dirais que oui, les psys s'adaptent, pas tous, mais voilà, il y a des adaptations et j'espère que que la plupart, en tout cas, je pense, sont quand même ouverts à la discussion et à proposer des choses. Il y a aussi des lieux qui proposent, je sais que par exemple à Toulouse, il y a un lieu où c'est une association de psychanalystes qui propose des séances à 30 euros. Dans le cadre de ce lieu, et c'est voilà, c'est assez autonome. Je saurais pas tout dire, toute la manière dont ils reçoivent, mais voilà, ils ont un certain fonctionnement. Donc parfois il y a des lieux qui se créent comme ça. Et après il y a tout ce qui est bien sûr CMP, mais là c'est pareil, il faut passer par le médecin, il y a des listes d'attente, mais c'est des endroits qui sont pris en charge par la sécurité sociale, donc voilà, ça existe aussi.
D'accord. Merci Caroline pour toutes ces informations, parce qu'on essaie de l'or finalement. Et il y en a une qui dit comment je peux vous joindre. Bah, si vous voulez joindre Caroline, c'est pas compliqué. Soit son Instagram, soit le petit lien en dessous que je vous redonnerai en message privé avec grand plaisir. Caroline, on va regarder maintenant les questions qui viennent d'être posées par les personnes. Alors, il y a déjà une d'Inès qui me semble importante.
Oui, quelle est la durée d'une séance? Je la vois s'afficher. C'est pareil, ça peut dépendre. Je dirais qu'en moyenne, on est entre 45 minutes et une heure. Il y a des personnes où ça va être vraiment 45 minutes pile et d'autres une heure. Ça peut parfois un peu dépasser, mais on est autour de l'heure en général. Voilà. En tout cas, avec moi, mes séances, c'est autour d'une heure et je respecte assez le temps psychique. Ça peut m'arriver. Alors globalement, je tiens l'heure, mais parfois certaines personnes, on sent que ça a besoin de déborder. Et ben, si c'est 1h10, 1h15, voilà, j'écoute. Alors parfois, quand j'ai un rendez-vous après, je vais devoir arrêter, mais je respecte ce temps-là et voilà, j'essaye vraiment d'être attentive à ce qui se passe. Et de la même manière, parfois, au bout de 45 minutes, ben en fait, on a terminé. Et surtout, la personne, ça m'est déjà arrivé, des personnes où vraiment on sent qu'elles sont épuisées par la séance. Bien sûr, on s'arrête. On continue pas parce qu'on doit continuer. Et donc, voilà, de respecter là où la personne en est. Et de la même manière, de parler de ça à votre thérapeute. Si vous trouvez que les séances sont trop courtes, que vous êtes frustré, ou qu'au contraire, à chaque fois, le thérapeute dépasse le temps, mais parlez-en, dites ce qui se passe, parce que c'est ultra intéressant, et ça permet de faire redescendre beaucoup de tensions. C'est un travail de confiance, en fait. Et si on ne communique pas entre nous, forcément, les choses peuvent moins se faire. L'espace de thérapie, c'est un espace expérientiel. C'est aussi là où vous allez apprendre à déposer vos besoins, déposer vos émotions dans un cadre neutre, dans un cadre soutenant. Donc, allez-y, profitez-en pour le faire. C'est vraiment important.
D'accord. Merci, Caroline. Alors, il y avait une autre question de Anna qui nous dit « Une séance est-elle aussi bénéfique à distance qu'en présentiel ?»
Eh bien, dans mon expérience, je trouve que oui. Alors, je dirais que il y a encore 3 ans, j'aurais pas du tout dit ça. J'étais quelqu'un qui disait non, moi la visio jamais. Et le Covid est arrivé et j'ai été vraiment étonnée parce que je pensais que en visio, à part du soutien psychologique très très ponctuel, voilà, on pourrait pas trop rentrer. Et en fait, si j'ai des suivis que je n'ai fait qu'en visio où on est vraiment, on était vraiment dans un travail de psychothérapie. Les personnes ont vraiment avancé. Elles ont pu me faire vraiment des retours très qualitatifs de ce qu'elles ont vécu. Donc oui, ça peut l'être. Après, à nouveau, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'être à distance? Pareil pour les thérapeutes. Si un thérapeute n'est pas très à l'aise à distance, forcément, les choses vont pas bien se passer de la même manière. Donc, c'est de se poser la question, est-ce qu'on se sent bien dans cette modalité-là? Mais je dirais que si le thérapeute et la personne accompagnée se sentent OK dans ce dispositif, sont capables aussi, c'est très important, d'être dans un espace où on est tranquille. Parce que j'ai eu quelques séances avec des personnes où elles me disent, je peux pas trop m'exprimer, il y a quelqu'un à côté. Et là, effectivement, ça bloque. Donc, d'être dans un espace où on est au calme, où on sent qu'on va pas être interrompu, qu'on n'est pas écouté ou entendu. Mais on va dire, si toutes les conditions sont bien réunies, vraiment, j'en ai été la première surprise des résultats très qualitatifs. Donc, oui, ça peut être vraiment aussi bénéfique.
Merci. Alors, il y en a une autre question. Une séance prévue non réalisée doit-elle être due si le patient l'annule?
Alors, je dirais que ça dépend des thérapeutes. Moi, ma manière, c'est, on va dire, quand quelqu'un me pose un lapin, vraiment, j'ai pas de message, j'ai rien, j'ai tendance à demander la séance. Alors, dans la réalité, rarement les personnes me recontactent pour me payer. Mais en fait, c'est important de se rendre compte que en tant que libéral, c'est un temps qu'on a accordé, c'est un temps qu'on a bloqué dans notre agenda en fonction de nos vies personnelles aussi. Hein, c'est vraiment, on a décidé, cet espace-là, c'est un espace qui était accordé aux patients et quand la personne ne vient pas et annule n'annule pas ou au tout dernier moment, bah parfois en fait on peut demander la séance parce que nous réellement ça a été une heure travaillée en fait. Donc c'est à cet endroit-là. Après, je pense que c'est toujours important de penser au cas par cas. C'est-à-dire que il y a des personnes, elles m'ont prévenu au dernier moment. Des fois, je peux pas venir, j'ai mon enfant qui est malade à la crèche, je suis vraiment désolée, je suis obligée d'annuler. Et ben on décale et c'est ok. Par contre, quelqu'un qui toutes les semaines m'annule en me disant bah, j'ai une réunion au travail, bah, je peux pas venir, et que c'est ça toutes les semaines, mais au bout d'un moment je vais dire écoutez, là en fait bah, la séance est due parce que moi je vous ai bloqué un créneau. Et ben voilà, on a besoin aussi d'être quand même reconnu dans ce qu'on vient offrir. Donc voilà, ça dépend des thérapeutes. Après, souvent c'est marqué sur leur site, sur la description de psychologue.net, donc de regarder. Et voilà, de se dire qu'effectivement, quand on prend rendez-vous, c'est aussi d'une certaine manière, on a adhéré à cette règle-là. Mais vraiment de penser à annuler et à prévenir. C'est vrai que déjà, franchement, quand les personnes préviennent, même quand c'est au dernier moment, oui. Nous, à moi, je sais que, ah, c'est ça, juste de recevoir un appel qui dit, bah, je suis vraiment désolée, j'ai eu un contretemps, les choses se sont, enfin, j'aurais aimé venir, mais là, je ne peux pas. Eh bien, enfin, on trouve des solutions en fait, et au moins on se sent respecté parce que bah sinon voilà, on sait pas trop ce qui se passe. Et parfois aussi, quand on n'a pas de nouvelles, on peut être un peu inquiété. On ne sait pas si la personne il lui a eu un souci. Si, Donc oui, c'est important de prévenir, et après bah les règles dépendent de chaque thérapeute.
D'accord. Là, Cédric qui nous demande bonjour, utilisez-vous le tutoiement pour faciliter l'expression des émotions?
Alors. Ça, c'est pareil, ça dépend. Je sais que j'ai une personne, là, un adulte, qui m'a demandé qu'on se tutoie. Et moi, il n'y a aucun souci. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas le faire de base. Alors, à part avec les enfants et les ados, j'arrive plus facilement à faire. Et du coup, par contre, je leur demande de me tutoyer. Hein. On est vraiment à égalité. Avec les adultes, c'est vrai que je ne sais pas trop comment ça pourrait être pris. Donc, je vois un petit peu. Mais si la personne me dit, par contre, s'il te plaît, on se tutoie, il n'y a pas de souci, et on le fait au tutoiement, ça, enfin voilà, là je m'adapte. Donc là, ce que j'entends pour Cédric, c'est peut-être quelque chose, Cédric, qui pourrait toi te faciliter l'expression de tes émotions, donc de pas hésiter effectivement à le demander. C'est encore une fois, ça dépend des thérapeutes, mais. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Il y a pas, pour moi, le respect ne s'arrête pas du tout au tutoiement. C'est juste des préférences de langage.
D'accord. Merci, Caroline. J'ai vu qu'il y avait un témoignage qui était intéressant. Alors, c'était Marc qui... Alors, ça fait un an qu'il est en consultation avec un psy. Il est très bien. Mais maintenant, il voit qu'il arrive finalement au bout. Et il n'apprend plus rien au bout d'un an. Est-ce que là, ce serait intéressant de changer de psy et de lui en parler surtout?
Mais c'est ça que j'allais dire, c'est surtout en parler à son thérapeute, de vraiment voilà exprimer là où on en est. Parfois c'est important, on peut avoir besoin de faire des pauses, on peut aussi effectivement en être arrivé à la fin de notre travail, mais c'est intéressant d'en parler, surtout que des fois je trouve que c'est drôle parce que des fois les personnes qui viennent un peu, elles disent bon bah aujourd'hui je pense que ça va être notre dernière séance, puis on parle de ça, puis des fois c'est un peu... Ah, mais en fait, je me suis rendu compte d'autres choses. Je vais peut-être reprendre une séance. Donc, et puis des fois, effectivement, ça s'arrête, bien sûr. Mais voilà, de venir parler, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Est-ce que réellement, en fait, là, on ressent que notre thérapeute nous a apporté tout ce qu'il pouvait nous apporter? Et effectivement, c'est OK. Est-ce qu'on sent qu'on a besoin d'une pause? Est-ce qu'on sent qu'en fait, effectivement, on a envie d'aller voir un autre type d'approche? Voilà, mais... toujours vraiment parler avec son thérapeute pour, bah, en fait, pour poser les choses, et parce que, bah, c'est quand même au bout d'un an, il y a une relation qui s'est créée, une relation thérapeutique, et c'est important d'y mettre fin de la meilleure des manières, et donc voilà, de venir dire que pour nous, voilà, bah, pour moi, je pense que c'est terminé, je sens que dans cet espace-là, je ne peux plus avancer, et voilà, et voir ce qui peut se construire en échangeant de cette manière.
D'accord. Merci, merci Caroline d'avoir répondu à toutes tes questions. On a fini ce live aujourd'hui sur comment se passe une consultation chez le psy. Je pense que c'était très enrichissant et que ça va servir, c'est un live qui va servir à pas mal de personnes. Ils pourront le revisionner avec grand plaisir. Je ne sais pas, Caroline, si tu avais un message à faire passer sur la psychologie, sur les consultations. N'hésite pas, c'est ton moment à toi.
Je dirais de vraiment... Moi, là, comment j'accompagne les personnes, c'est qu'elles puissent être le plus alignées avec elles-mêmes et donc vraiment vivre l'espace de thérapie comme un espace d'expérience où, avec ce thérapeute, je peux m'exprimer. Et je dirais que si vous trouvez que vous ne pouvez pas vous exprimer avec votre thérapeute, là, ça questionne. Ça m'est personnellement arrivé avec une thérapeute où je sentais que j'étais pas accueillie. Je pense qu'elle était une très bonne thérapeute pour plein d'autres personnes, mais avec moi, c'était pas possible. Et j'ai arrêté. Et ensuite, ça a été beaucoup mieux. Donc vraiment, de rester sur ses ressentis, d'en parler. Et justement, c'est le moment, mettez en avant vos besoins et vos attentes avec le thérapeute et voir comment le thérapeute réagit. Si le thérapeute réagit très mal à ça, c'est peut-être que ça vous correspond pas. Donc vraiment, faites-vous confiance. Les réponses sont en vous. Vous savez quel est le type de thérapeute qu'il vous faut. Donc et vraiment de pas hésiter à poser des questions. Si ça vous intéresse de savoir quelle formation la personne a fait, quelle orientation elle a, mais vraiment de pas hésiter. Les psys, on aime bien parler de nos formations, de parler de tout ça. Alors, on risque de parler toute la séance, c'est le risque. Mais en tout cas, on vous répondra avec beaucoup de bienveillance mais de garder en idée que vous savez ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est vraiment primordial, je pense.
Je te remercie, Caroline, pour ce live très intéressant et je te souhaite une très belle journée.
Oui, merci. Très bonne journée à toi aussi. À bientôt et merci à toutes les personnes qui ont été présentes, qui ont posé des questions et qui nous ont rejoints pour ce live.
Avec grand plaisir, Caroline.
Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.